Bonjour à tous, bienvenue dans le grand face-à-face de France Inter, au sommaire de l'émission jusqu'à 14h. Comme tous les dimanches, retour sur l'actualité avec Natacha Polony et Raphaël Glucksmann. Et dès 13h30, le président de la République défend son action cette semaine. Il s'expliquera ce soir sur les frappes militaires en Syrie, mais aussi sur ses réformes. Le think tank, l'Institut Montaigne, a passé en revue les nombreuses réformes engagées depuis le début du quinquennat. Une trentaine de chercheurs et d'experts mobilisés pour un état des lieux des 12 mois de Jupiter. Au bout d'un an d'exercice du pouvoir, qu'est-ce donc que le macronisme? Pour en débattre, un invité, le directeur de l'Institut Montaigne, Laurent Bigorgne. Rendez-vous avec lui dès 13h30.
France Inter, le grand face-à-face. Ali Badou.
Mais d'abord le duel Natacha Polony-Raphaël Glucksmann. Bonjour Natacha.
Bonjour.
Bonjour Raphaël.
Bonjour.
Entrons tout de suite dans le vif du sujet et d'une actualité bien sûr dominée par les frappes des Américains, des Britanniques et des Français hier en Syrie. Après des jours de tergiversation, une action menée contre 3 sites d'armement chimique syrien. Réponse à l'attaque du 7 avril dernier à Douma dans la Ghouta orientale à l'est de la capitale syrienne, Damas. Écoutez Donald Trump hier matin.
My fellow Americans. A short time ago, I ordered the United States Armed Forces.
Mes chers compatriotes, j'ai décidé ce soir d'ordonner des frappes précises sur des cibles liées au programme d'armes chimiques du dictateur syrien Bachar el-Assad. Une opération militaire conjointe avec la France et la Grande-Bretagne est en cours. Je veux vous dire pourquoi nous avons décidé de déclencher cette opération. Samedi dernier, le régime syrien a à nouveau procédé à une attaque chimique pour massacrer des civils innocents à Douma, près de Damas. Ceci n'est pas l'œuvre d'un être humain, mais bien le crime d'un monstre.
Voilà Donald Trump qui justifiait donc les frappes sur la Syrie hier. Avant de regarder les commentaires et les réactions politiques ici en France, Natacha, mission accomplie, disait le président Trump après ces frappes, action unilatérale en Syrie. Est-ce que vous partagez le diagnostic ?
Je pense qu'hélas, c'est une triste plaisanterie. C'est-à-dire que les États-Unis, la France et le Royaume-Uni savent parfaitement qu'ils n'ont fait ça que pour la forme, que pour ne pas se déjuger. C'est-à-dire qu'on a attendu, et on a même sans doute fait en sorte qu'il n'y ait plus le moindre Syrien sur les cibles visées pour qu'il n'y ait pas de risque de dommages collatéraux. Pourquoi ? Parce qu'on savait très bien que ça pouvait enclencher une escalade. Donc on est dans bien, un envoi de missiles pour la forme. D'ailleurs, 70 des 103 missiles envoyés ont été détruits.
C'est ce que déclarent les Russes.
Mais oui,
et c'est nié par les états-majors américains et français.
Sauf qu'il y a de fortes présomptions que ce soit vrai, tout simplement parce qu'en effet, il y a des armes de brouillage des guidages de missiles du côté des Russes sont extrêmement puissantes. Donc tout ça a été fait pour faire en sorte que les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne n'aient pas à reculer en rase campagne, sachant que Emmanuel Macron, dans cette histoire, s'est retrouvé englué par une espèce de système atlantiste qui est en train de faire pression sur lui cette semaine. Mohamed Belsalman était à Paris. Et le but était là aussi d'enfermer la France dans cette espèce de vision manichéenne des méchants contre les gentils. Il faut être dans le camp du bien parce que sinon on est renvoyé au camp du mal. Et le but là, notamment le but pour l'Arabie Saoudite, c'est derrière cette histoire de Syrie de casser avec les États-Unis l'accord nucléaire avec l'Iran. Si la France se laisse entraîner dans tout cela, c'est absolument lamentable et dangereux parce que ce sont des intérêts qui ne sont pas les nôtres. Donc en fait, on est en train de faire croire qu'on est dans la morale, oui. On est en train de punir Bachar el-Assad d'avoir fait quelque chose de très mal. D'abord, il faut là aussi discuter de ce qui s'est passé réellement et des preuves dont on dispose. Ce sont les mêmes que celles qu'a fournies la presse anglo-saxonne cette semaine et qui ne sont pas du tout formelles. Mais derrière ça, il y a aussi quelque chose de stratégique, c'est-à-dire que les États-Unis sont en train d'essayer de forcer leurs alliés à se ranger derrière eux dans une espèce de rapport de force qui est extrêmement dangereux.
Raphaël,
c'est complètement faux. La France a cette position-là depuis 2013. Ce n'est pas la France qui s'est ralliée aux États-Unis. Ce n'est pas la France sur laquelle on a fait pression pour se rallier aux États-Unis. C'est au contraire une continuité avec la politique étrangère et la position sur la Syrie de François Hollande. C'est la position française depuis le début du conflit
en
Syrie.
Non, pas Emmanuel Macron.
Alors, je vous ai laissé parler et faire un grand exposé géopolitique, Natacha Polony, donc vous allez m'écouter à votre tour.
Oui, je vous écoute.
C'est complètement faux. Et d'abord, effectivement, ces frappes ne vont pas résoudre le conflit syrien et ces frappes ne vont pas mettre fin au calvaire des populations civiles. Mais quand vous dites qu'il faut discuter des preuves sur l'attaque de Douma, mais c'est pas la première attaque. C'est pas la première attaque. Il y en a eu des dizaines selon l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques. Selon les enquêtes de l'ONU, le régime est responsable des dizaines d'attaques chimiques qui ont eu lieu en Syrie jusqu'à celle de Douma.
Mais vous entendiez Donald Trump, il disait que c'était une réponse à l'attaque du 7 avril dernier
bien
à
sûr.
Douma. Attaque sur laquelle il y a une commission d'enquête de l'ONU qui est en train de faire ses recherches.
Qui a empêché un mécanisme de vérification d'être mis en place et d'être appliqué? Qui a mis fin au mécanisme de vérification de l'ONU? La Russie, soutien parrain de Bachar el-Assad. Et là, qui a mis son veto pour empêcher un mécanisme de vérification? La Russie, parrain et soutien de Bachar el-Assad. Donc, à un moment, je suis d'accord que ça ne résout pas le conflit syrien, mais à un moment, il faut réagir. Ça fait des années que Bachar el-Assad gaze son peuple en toute impunité. Laisser cette impunité pour toujours, c'est banaliser le gazage des populations civiles.
Mais alors, le régime syrien peut massacrer les civils à coups d'armes conventionnelles, mais pas avec les armes chimiques.
Mais vous parlez à quelqu'un qui dénonce le fait que le régime de Bachar el-Assad et l'aviation russe massacrent la population civile avec gaz ou sans gaz depuis l'origine du conflit. Donc évidemment, non. Simplement, il y a des moments où, quand on fixe des lignes rouges, il faut savoir les faire respecter. Et d'autre part, ce qui m'étonne, mais ce qui me fascine et ce qui me m'horripile, c'est que les mêmes qui critiquent des frappes qui, soi-disant, sont juste du spectacle, nous expliquent qu'elles sont, par ailleurs, extrêmement dangereuses et scandaleuses, et n'ont pas eu un mot quand les avions russes bombardaient les hôpitaux et les écoles d'Alep ou de la Ghouta. Et donc là, il y a une forme de gigantesque hypocrisie dans les réactions aux frappes.
Natacha, avant d'envisager encore une fois les réactions en France, est-ce que vous critiquez cette action qui a été menée en dehors de tout mandat des Nations Unies, par exemple, et qui n'a pas été autorisée non plus par le Parlement français ?
Alors, première chose, je ne fais pas partie de ceux qui n'ont pas eu un mot quand l'aviation russe frappait les hôpitaux d'Alep. Et encore une fois, le monde n'est pas en noir et blanc. Il n'y a pas d'un côté ceux qui ont une mansuétude vis-à-vis des Russes et ceux qui, de l'autre côté, dénoncent les méchants. Non, c'est un peu plus compliqué que ça. D'abord, sur la question de l'utilisation des gaz...
J'ai pas parlé de noir et blanc.
Mais Raphaël, pardon, mais si on a des mots quand il y a des populations qui sont massacrées, simplement, il y a la question des massacres des populations, et Dieu sait qu'il y en a, et Dieu sait que, par exemple, on pourrait s'intéresser aux massacres des populations au Yémen aussi, mais il y a aussi...
Mais là, on parle de la Syrie, à chaque fois, l'argument, c'est de dire et on n'agit pas en Syrie parce qu'on n'agit pas au Yémen.
Non, mais c'est pas ça l'argument. C'est d'essayer de réfléchir en termes géopolitique, parce que c'est la seule façon de sortir de ce conflit. Donc, premier point, sur ce qui est précisément de cette attaque, la milice qui est sur place, Al-Isram, a détenu des armes chimiques et les a déjà utilisées également. Donc, il n'y a pas, hélas, à cet endroit-là, en Syrie, que le régime de Damas qui use d'armes chimiques. C'est bien le problème sur place. Alors, on pourrait refaire l'histoire
exactement
de l'attaque.
Exactement au même endroit, il y a eu une attaque en 2013. L'ONU, pas les États-Unis, pas la France, l'ONU a conclu que c'était le régime de Damas.
Non, mais il y a des fois où c'est le régime de Damas, et puis il y a des fois où ça ne l'est pas. Et la question est de savoir comment on fait pour avoir des preuves sur un terrain qui est tenu par les uns et les autres. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que cette réponse que nous la faisons pour certaines raisons. Éviter de banaliser, en effet, les armes chimiques. Et ça, c'est tout à fait légitime de la part des puissances occidentales. Il y a un danger à voir banaliser les armes chimiques. En revanche, il y a un danger peut-être beaucoup plus grand à agir systématiquement en dehors du droit international, en dehors de l'ONU, à dépasser les mandats de l'ONU, ce que nous faisons depuis quelques années, et que Emmanuel Macron, justement, ne voulait plus faire. Vous dites qu'il y a une continuité
alors,
dans la politique.
Alors, c'est une vraie question, justement, alors, oui, celle du mandat de l'ONU.
Vous dites qu'il y a une continuité dans la politique. Je termine. Vous dites qu'il y a une continuité dans la politique étrangère de la France. Ça n'est pas vrai. C'est-à-dire que François Hollande avait suivi, avec Laurent Fabius, la politique qui existait déjà depuis longtemps, que ce soit sous Bernard Kouchner, que ce soit sous Alain Juppé. En revanche, Emmanuel Macron avait rompu depuis un an. Et là, il s'est laissé entraîner. Et on voit très bien, avec l'intervention de Jean-Yves Le Drian, que Emmanuel Macron est un petit peu embêté et qu'il va essayer maintenant de rattraper notamment en maintenant son voyage en Russie.
Changement de régime. Emmanuel Macron a dit on ne peut pas changer le régime. C'est sa position et ça reste sa position aujourd'hui. On ne parle pas là de changement de régime. C'est frappe. D'un côté, vous dites qu'elles sont simplement un spectacle et de l'autre, vous expliquez qu'il a changé de position. Non, il n'a pas changé de position. C'est sa position depuis l'origine. Mais simplement sur l'ONU. Mais encore une fois, c'est hypocrite parce que à l'ONU, il y a eu 12 vétos russes qui empêchent toute action coordonnée
alors
par l'ONU.
L'ONU.
Donc, le Conseil de sécurité, dire il faut absolument passer par le Conseil de sécurité, c'est savoir, au moment où on le dit, que de toute façon, on ne répondra pas à l'usage du gaz, de gaz par le régime de Bachar al-Assad, parce que la Russie bloque même les mécanismes de vérification.
Donc on arrête l'ONU et on impose un ordre occidental du monde ? C'est ça que vous proposez ?
Mais c'est pas un ordre occidental du monde. Il n'y a pas là de comparaison à faire avec la Libye ou avec l'Irak. Il n'y a pas de volonté de changement de régime. Il n'y a pas de troupes françaises qui seraient engagées au sol ou de troupes américaines.
Mais parce qu'on sait que les Russes répondraient.
Il y a simplement le fait que laisser impunie l'utilisation systématique à des dizaines de reprises des armes chimiques, eh bien, banaliserait et mettrait fin à une forme de tabou.
Alors, Natacha, vous écoutiez tout à l'heure Donald Trump qui parlait de Bachar el-Assad comme d'un monstre qui tue des enfants qui étaient hors de notre humanité. Est-ce que c'est une manière de dire au fond que Bachar el-Assad a gagné en n'allant pas frapper son palais présidentiel puisque personne n'a intérêt à déstabiliser davantage la Syrie et la région ? Des frappes ciblées, très ciblées, mais pas question aujourd'hui de se débarrasser même du monstre. Natacha ?
Non mais dans l'espèce de gigantomachie qu'on est en train de jouer, le problème n'est pas que Bachar al-Assad ait gagné. Le problème c'est qu'en effet, nous avons fait de telle façon que pour l'instant, la Russie le protège. Alors qu'on aurait pu négocier avec la Russie de lui laisser son protectorat de fait sur la Syrie tout en l'enjoignant.
Protectorat de fait sur la Syrie ?
Ben bien sûr, le problème c'est ça, c'est qu'on a fait en sorte que la Russie décide qu'elle avait là un protectorat, c'est bien le problème. Donc il fallait comprendre l'espèce de ligne rouge des Russes, mais faire en sorte que les Russes acceptent de dégager Bachar al-Assad.
Or,
en renvoyant la Syrie et la Russie et l'Iran dans une espèce de camp et de bloc, en construisant cette politique des blocs, on a fait en sorte que tout ça ne puisse pas se passer.
Alors, réponse de Raphaël Glucksmann. Natacha, laissez Raphaël vous répondre.
Ce qui me fascine, c'est cette vision complètement ethnocentrée qui fait croire que les Bachar el-Assad et les Vladimir Poutine de ce monde répondent nécessairement aux actions occidentales. Ils ont une stratégie. Les Russes soutiennent Bachar el-Assad.
Qui est ethnocentré là-dedans.
Bien sûr. Moi, je pense qu'il y a des acteurs qui ont une idéologie propre, des intérêts propres et qui ne répondent pas nécessairement aux actions occidentales. La Russie soutient Bachar el-Assad, non pas en fonction de ce que fait ou ce que ne fait pas l'Occident, mais parce que, fondamentalement, Vladimir Poutine voit dans Bachar el-Assad un allié idéologique et un allié d'intérêt.
Encore un mot sur cette question, et votre débat d'ailleurs en est un signe. Est-ce que vous comprenez qu'il n'y ait pas d'union nationale sur cette question ? On a vu la France Insoumise, le Front National, les Républicains critiquaient vivement l'intervention française de côté des Américains et des Britanniques. Emmanuel Macron soupçonné par certaines voix, notamment chez les Républicains, de s'engager dans un conflit pour s'offrir un costume de chef de guerre, Raphaël.
Mais pour moi, ça, c'est de la base politique. Je suis extrêmement critique de la politique d'Emmanuel Macron, mais ce qui détermine ma position sur la Syrie, c'est la question syrienne et le fait que depuis 7 ans, on laisse massacrer un peuple et que ce ne sera pas totalement impuni. Voilà, c'est cela l'enjeu. Dans les réactions qu'il y a eu, il y a une forme de gigantesque hypocrisie, d'un côté, ceux qui n'ont pas protesté, alors je ne parle pas de vous Natacha, mais ceux qui n'ont pas protesté contre les bombardements russes à Alep et la Ghouta, tout d'un coup se réveillent et deviennent pacifistes, et de l'autre, des républicains qui, objectivement, si un président républicain avait pris la même décision, l'aurait soutenu, font mine de la critiquer.
Natacha, pas d'union nationale sur le sujet, vous le comprenez ?
Mais il n'y a déjà pas d'union nationale au sein du Quai d'Orsay, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est qu'il y a des lectures diverses de ce problème au cœur même de notre diplomatie, et c'est bien ce que nous voyons depuis des années. Alors, mais entendre parler d'hypocrisie, de machin, moi je vois surtout des gens qui veulent imposer un ordre occidental du monde en croyant que c'est possible et que ça peut marcher. Or, non, nous savons très bien que ça a provoqué des catastrophes depuis 15 ans. Donc on peut peut-être se poser la question de savoir comment on va éviter de déstabiliser un peu plus le Moyen-Orient. On va peut-être arrêter de vouloir à tout prix intervenir de cette façon-là. On n'intervient pas par les armes, on intervient par la diplomatie. Et je pense que la France s'est privée de sa voix pendant des années avec cette politique. Là, ça risque de recommencer. C'est-à-dire que nous nous interdisons de pouvoir aider à stopper ce conflit puisque nous apparaissons comme, des sous-fifres des États-Unis.
Raphaël.
Écoutez, c'est pas l'intervention de hier qui va déstabiliser le Moyen-Orient. C'est ce conflit qui dure depuis 7 ans.
Qui est une guerre civile. Il n'y a pas que Bachar el-Assad qui massacre le peuple.
Le Moyen-Orient. Je vous laisse faire vos exposés de géopolitique, Natacha. Alors, s'il vous plaît, m'interrompez pas.
Il n'y a pas que Bachar el-Assad qui massacre le peuple, Raphaël.
Donc, si on intervient absolument pas quand il y a des utilisations d'armes chimiques, eh bien, la conséquence, c'est la déstabilisation. La conséquence, c'est le fait qu'on banalise l'utilisation d'armes chimiques. Quant à la diplomatie, évidemment, la solution, ce ne sera pas ces frappes. La solution, ce sera la diplomatie. Mais la diplomatie suppose un rapport de force aussi. La diplomatie suppose qu'on fasse pression sur la Russie pour qu'elle fasse pression sur Bachar el-Assad. Or, jusqu'ici, la Russie n'en avait strictement rien à faire de ce que pouvaient dire les Occidentaux puisque leurs paroles n'étaient absolument pas crédibles.
Elle l'est toujours pas.
Elle l'est toujours pas, vous dites Natacha. La Syrie qui sera en tout cas le premier sujet sur lequel sera interrogé ce soir le chef de l'État. Le grand face-à-face continue et après le président chef de guerre, le président et la France. Place au débat.
Le grand face-à-face, Ali Badou, sur France Inter.
Le président de la République est sur le front médiatique cette semaine pour expliquer, défendre ses réformes. Ce soir sur BFM et Mediapart, après le 13h de TF1, c'était cette semaine.
Les riches, ils ont pas besoin d'un président. Il se débrouille très bien tout seul. Moi, je suis président de tous les Français. Mais être président de tous les Français, ça n'est pas montrer du doigt une catégorie et faire qu'ils aillent moins bien, ou les villes ou les métropoles, parce qu'elles iraient mieux. Je suis président de tous les Français.
Un moment de cette longue interview qui a duré 1h15, le think tank l'Institut Montaigne a passé toutes les réformes d'Emmanuel Macron au crible. Une trentaine de chercheurs et d'experts mobilisés, un état des lieux détaillé et mis en ligne au moment où se précise peut-être enfin ce qu'est le macronisme. Alors quel bilan tirer des 12 mois de Jupiter, comme le titre l'Institut Montaigne. France Inter ouvre le débat ce dimanche avec notre invité. Il dirige justement ce think tank l'Institut Montaigne. Bonjour Laurent Bigorgne.
Bonjour.
Et bienvenue, passionnant de lire vos travaux sur ce qui a été fait, ce qui reste à faire, les réformes techniques, celles qui changeront profondément le pays, on va y venir. Mais d'abord, un mot sur la forme. Le président de la République, dans une école, il s'adressait aux citoyens comme s'ils étaient des écoliers de CE2.
Oui, il y a beaucoup de scénarisation. On est dans une école, on est dans un journal télévisé qui n'est pas un journal du soir, mais qui est un journal du midi. Donc on s'adresse à un segment de la population, même si j'ai cru noter qu'il y avait une audience assez remarquable.
6 400 000 personnes ont regardé cette interview au lieu des 5 millions qui regardent habituellement Jean-Pierre Pernaut.
Oui, c'est 30% de plus. Et puis on verra comment les choses vont se passer ce soir, parce que c'est encore un autre exercice. Donc on voit bien que à un moment où, non pas les réformes sont à l'arrêt, mais à un moment où un ferment de contestation naît de plusieurs points, il y a clairement une volonté de reprendre la main, au moins pédagogiquement.
Alors, pour expliquer ces réformes, en donner peut-être l'esprit, on va en parler avec vous, parce qu'il n'est pas évident à définir. Mais d'abord, vous, comme téléspectateur, Raphaël Glucksmann, qu'avez-vous pensé du président de la République sur TF1 ?
J'ai trouvé que c'était pas vraiment un nouveau monde, en tout cas dans la manière dont on interroge un président de la République, on le laisse dérouler ses questions. Par exemple, il y a un moment qui m'a, moi, stupéfait. Emmanuel Macron nous dit, mais les gens venaient tous me voir pour me dire que c'était un impôt injuste, en parlant de l'impôt sur la fortune. Mais quels gens ? C'est la première question qu'un journaliste doit poser, c'est quels sont ces gens pour qui l'impôt sur la fortune était la première des choses qu'il fallait évoquer quand il rencontrait Emmanuel Macron. Je pense que ces gens, tout le monde le sait, ce sont des gens qui ont à payer l'impôt sur la fortune, mais je ne pense pas que dans un marché en Picardie, ce soit la première interpellation des gens. Voilà, donc moi, ce que j'ai trouvé...
C'était dans l'Orne, en Normandie.
Oui, voilà, mais donc, oui, je ne parlais pas du lieu où il faisait l'interview, je disais qu'il y avait quand même là un petit côté... peut-être Nouveau Monde, mais aussi Ancien Régime. C'est-à-dire qu'on laisse parler le président pendant 5 minutes sans le contredire. Bon, très bien.
Natacha ?
Je pense que ce qui était intéressant surtout, c'est d'avoir Emmanuel Macron, non plus dans un discours écrit ou dans une interview, comme cela avait été le cas dans Le Point, où il manie les concepts philosophiques, d'ailleurs en les tordant parfois. Mais là, ce qui ressortait, c'était la vérité du macronisme. Et la vérité du macronisme, alors elle est en partie illustrée par l'extrait que vous avez passé, qui a beaucoup fait parler, et dans lequel on s'aperçoit que certes, bon alors je ne soupçonne
pas... Il se défend d'être le président des riches.
Voilà, je ne soupçonne absolument pas, comme certains, Emmanuel Macron de considérer, enfin d'infantiliser les pauvres en disant, eux, ils ont besoin de l'assistance de l'État, alors que les riches se débrouillent. C'est absolument pas ça. En revanche, il oublie simplement que les riches ne se débrouillent pas, qu'en l'occurrence, ils ont besoin de politiques qui permettent de déréguler, qui permettent d'installer le libre-échange et tout un système qui les enrichit, et que ça s'est passé depuis les années 70, et que ce n'est jamais un hasard quand la quasi-totalité des classes supérieures d'une société ont le même candidat et le soutiennent, ce qui s'est passé avec Emmanuel Macron. Donc il y a une lutte des classes, et le nier me semble assez étonnant.
Laurent Bigorgne.
Moi, je vous entendais dire tout à l'heure, parler d'injustice. Enfin, on ne va pas refaire le débat une énième fois sur l'ISF. Je préfère le voir en termes d'efficacité. Mmh. Et ce qui me frappe à ce stade, c'est qu'il est beaucoup plus facile de dire au président de façon idéologique qu'il est le président des riches, et puis ensuite il s'en défend.
Reproche
assez normal.
Qui avait déjà été adressé à Nicolas Sarkozy.
Oui, enfin, et qui est tendanciellement adressé au fond à tous ceux qui, notamment, veulent supprimer l'ISF ou revoir la fiscalité du capital. Ce qui m'intéresse, moi, c'est qu'on a un président qui est du côté des richesses et de leur création. Et c'est ça, une des choses
Quelle est la différence?
La différence, c'est que quand vous êtes du côté de l'investissement et de l'entreprise, vous êtes là pour effectivement, et c'est toute la théorie, pardon, je mets trois guillemets en citant, parce que moi je ne fais ni l'exégèse, ni le porte-flambeau du macronisme, mais la théorie du ruissellement, c'est ça. C'est-à-dire que si vous voulez pouvoir redistribuer, partager, si vous voulez pouvoir intéresser, parce qu'il a été question d'intéressement, il faut bien créer cette richesse. Et on a besoin d'investissements, c'est-à-dire de signaux qui permettent à un moment ou à un autre à ceux qui prennent des risques, les entrepreneurs et ceux qui ont des capitaux, de les investir en France plutôt qu'ailleurs.
Oui, mais la théorie du ruissellement, quand on est d'inspiration libérale... Et que
parlez bien devant le micro, Raphaël.
Quand on est d'inspiration libérale et que donc on se soucie d'être pragmatique et dans les faits, la théorie du ruissellement, ça a quand même été invalidée par des sociétés littéralement brisées par les réformes ultralibérales entreprises. C'est-à-dire
qu'il n'y a pas de réforme ultralibérale en France.
Non, mais enfin, pas en France.
Désolé de vous dire.
Ça fait 30 ans qu'on nous sort la théorie du ruissellement. Or, ça n'a pas, éteint la misère en Angleterre.
Qui l'a exprimé en France avant lui?
Aux États-Unis.
Pas en France, mais Ronald Reagan était un grand amateur de la théorie du ruissellement.
Façonné par cette théorie du ruissellement.
Je préférerais vivre dans un monde comme aux États-Unis à 4% de chômage qu'à 9% en France.
Avec des personnes de 85 ans obligées de vivre sur des trottoirs et de travailler.
Je préfère vivre dans un pays qui a des services publics comme en France.
Il y a des services publics aux États-Unis. Je rentre de plusieurs jours passés aux États-Unis. J'y vais très fréquemment. Il y a des écoles publiques aux États-Unis. Rassurez-vous, tout va bien. Il y a un problème d'investissement public, ce qui est autre chose. Mais je trouve encore une fois que pouvoir donner un cadre, pouvoir donner le sentiment qu'il y a une continuité, une cohérence pour permettre à certains d'investir et à tous de travailler, c'est la base pour moi.
C'est extrêmement intéressant parce que, comme vous l'avez dit, vous préfériez vivre dans un pays qui a 4% de chômage et un modèle américain.
Non, 4% de chômage,
c'est une question.
Si, vous caricaturez mes propos. Je n'ai pas dit que je préférais le modèle américain.
C'est une question de modèle de société, en fait, ce qui se pose. Et donc, il y a effectivement un travail à faire maintenant, alors sans esprit polémique, sur le type de modèle de société qui nous est proposé. Mmh. Parce que, pour une fois, on peut reconnaître ça, il y a une politique cohérente qui est menée par Emmanuel Macron depuis un an. Or, ce modèle, c'est un modèle libéral.
Je ne suis pas d'accord. Il n'est ni social-démocrate, ni libéral. Il manque des éléments substantiels pour que ce soit un modèle libéral. Pour moi,
qui lui manque pour que ce soit un modèle libéral et comment définiriez-vous le macronisme justement pour qu'on avance dans le débat?
Il faudrait une dérégulation maximale de tous les secteurs. Il faudrait privatiser à tout va. Et le président nous a dit que la SNCF restera à 100% un capitaux public. On va juste s'organiser différemment. Donc vous voyez, c'est pas une société libérale, en l'occurrence.
Hein. Et en l'occurrence, juste d'un mot, comment est-ce que vous définiriez le macronisme ? Au bout d'un an, les 12 mois de Jupiter, si vous deviez le décrire simplement.
Il y a trois éléments qui, pour moi, font partie de la façon dont Macron exerce le pouvoir. Premièrement, il est pro-européen. Ce qui, effectivement, le fera catégoriser comme libéral, c'est dire à quel point on est arrivé à un moment...
Je suis pro-européen, je ne suis pas libéral.
Non mais, je ne mets pas dans votre bouche, hein, Raphaël, je dis juste que trop souvent on l'entend comme ça. Deuxièmement, il est effectivement du côté de l'offre, et il veut la création de richesses, et en même temps, c'est quelqu'un qui veut remettre en fonction un certain nombre de grands systèmes sociaux qui ont fini par péricliter.
Alors, pour tout vous dire, moi j'ai l'impression que cette interview nous a montré une fois de plus ce qu'est vraiment le macronisme, puisqu'il y avait quelques leitmotifs qui ressortaient. Premier leitmotif, ça fait 20 ans qu'on sait que, depuis 30 ans on voit que, etc. Ce qui donne l'impression d'abord que le macronisme relève d'une certaine continuité avec les politiques qui ont été menées avant, puisqu'il s'agit simplement d'appliquer ce que les autres n'avaient pas su appliquer, à savoir justement cette vulgate libérale, même si elle ne va jamais au bout. Donc c'est pour ça, là, Emmanuel Macron ne peut pas aller au bout de ce qu'il pense, mais sur la SNCF en particulier. Mais en tout cas, c'est là, avec cette idée...
Je pense qu'il est très convaincu qu'il faut que la SNCF reste publique.
Ah, vous pensez qu'il ne va pas au bout de sa pensée ?
Avec cette idée très politique, que, en gros... les gens raisonnables ne peuvent qu'être d'accord avec lui et que ceux qui ne sont pas d'accord, c'est parce qu'ils ont 20 ans de retard, puisque depuis 20 ans, on sait que... Et deuxième leitmotiv très frappant, il a répété à peu près entre 10 et 12 fois « Le monde change, le monde bouge, le monde accélère ». Cette interview avait pour but, nous avait-on dit, de donner du sens, c'est-à-dire d'expliquer aux petites gens la cohérence de toutes les réformes qui sont faites. Et donc le sens, quel est-il ? Le monde bouge, alors il faut bouger. Pierre-André Taguieff avait appelé ça le bougisme, c'est-à-dire, et c'est surtout l'impression...
Donc le macronisme est un bougisme.
Le macronisme est un bougisme, et qui consiste à s'adapter à ce qui est donné comme une loi naturelle, c'est-à-dire que le monde change, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas dans quel sens, on ne sait pas qui décide, mais il faut s'adapter, sinon on disparaît, c'est du darwinisme.
Laurent Migorni.
Je ne sais pas si le macronisme est un bougisme, si je faisais un jeu de mots, je pourrais dire que c'était une bougie. Dans la nuit qui nous entoure, parce que quand je regarde l'Italie, la Grande-Bretagne, je me dis qu'au final, on est quand même plutôt heureux d'être français, d'être en France, et d'être en ce moment gouverné par quelqu'un qui n'est ni rouge-brun, ni sans projet pour son pays. Donc ça, c'est ce qui m'intéresse évidemment le plus. Et maintenant, Natacha, oui, le monde bouge. On est dans un monde qui est archi-violent. C'est-à-dire que l'opposition entre la Chine et les États-Unis est quelque chose d'extraordinairement violent et on est pris en étau. Et on souffre d'une absence d'Europe. Le monde est archi-violent quand on regarde ce qui se passe partout en Méditerranée et avec des pays qui aujourd'hui donnent des signes d'inquiétude bien au-delà de la Syrie, qui sont, je crois, une préoccupation du quotidien et qui feront éruption dans le
côté des Français. Ça nécessite de flexibiliser le droit du travail ?
Non,
c'est parce que c'est...
Je vais jusqu'au bout. Le monde bouge aussi et ça a été, je crois, une des grandes vertus de cette campagne présidentielle, c'est qu'il y a tous ceux qui acceptaient que le digital est en train de transformer nos sociétés, pour le meilleur et pour le pire. Et je pense que de ce point de vue-là, le président arme son discours. On sait qu'il travaille sur IGAFA au plan européen. On sait qu'il essaye de tirer les leçons d'un certain nombre de grands chocs sociaux. Et c'est aussi pour ça qu'on était dans une école rurale l'autre jour. Hein, de grands chocs sociaux qui vont affecter un certain nombre de territoires. Et des territoires qui ont déjà énormément souffert de la série de crises qui nous ont frappés du milieu des années 70 jusqu'à la crise de 2008. Et donc le monde bouge et je pense qu'effectivement, on ne peut pas rester complètement immobile et qu'un certain nombre de réformes sont entreprises. Je trouve qu'aucune d'entre elles ne porte cet adjectif de libéral ou d'ultra-libéral.
Aucune des réformes engagées ne porte atteinte au modèle social français, d'après vous ?
Mais non.
Puisque vous les avez passées au crible ?
Honnêtement, il y a une entreprise, effectivement, à la fois de fluidification du marché du travail et en même temps, on investit dans le même moment 15 milliards d'euros dans les compétences des moins qualifiés des Français. Qui l'a fait avant cela ? Qui l'a fait avant la période que nous vivons ? Personne.
Alors, Raphaël, vous avez souligné le fait que aujourd'hui nous vivons dans un moment de grande instabilité dans toutes les démocraties libérales occidentales, au-delà. Et alors, c'est la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il n'y a pas un problème structurel dans nos démocraties libérales ? Est-ce que les inégalités n'ont pas été tellement creusées que le consensus social autour des institutions des démocraties libérales n'existe plus, d'où le vote pour absolument tous les mouvements populistes rouge-brun, comme vous les appelez, qui ont eu lieu. Et moi, ce qui me pose problème en réalité, c'est que le diagnostic qui est posé sur la crise de confiance dans les institutions de la démocratie libérale, c'est par Emmanuel Macron, c'est de dire eh bien, c'est parce qu'il y a des structures collectives qui brident les initiatives des individus. On va donc libérer les initiatives, c'est-à-dire exactement ce qu'ont fait l'ensemble des voisins qui se retrouvent avec un vote rouge-brun. Et donc, ça va résoudre des problèmes. Moi, je pense que la crise est beaucoup plus profonde. C'est notre modèle de société qui est en crise. Or, là-dessus, il n'y a pas de réponse puisqu'il poursuit les logiques, voire les accentue.
Mais Laurent Miguel, enfin, on est dans un pays où 33% de la richesse nationale va vers des revenus de transfert. Il y a 56% de la richesse nationale. Bah, les revenus de transfert, c'est de l'assurance chômage, évidemment aux pensions de retraite, et à tous les systèmes sociaux. Il y a 56% de la richesse nationale qui se déploie dans des dépenses publiques. On a parmi les plus grosses entreprises publiques du monde.
Ouais.
Et personne ne remet en cause ce statut. Donc avant de m'expliquer, on est le pays qui a le moins souffert du creusement des inégalités.
Et bien pourquoi,
avant de m'expliquer,
pourquoi
mais parce que vous voyez bien que bien que nous ayons tout cela, nous avons au premier tour de la présidentielle deux des candidats qui sont complètement hors du spectre démocratique. Un brun et un rouge.
Vous parlez de Marine Le Pen et de Jean-Luc Mélenchon.
Mais bien sûr, on a des candidats
en dehors du spectre démocratique.
Mais Marine Le Pen pour moi est en dehors du spectre démocratique comme lui Jean-Luc Mélenchon. Ce sont des ennemis de la démocratie. Et alors, le pays de Cocagne que vous me décrivez,
c'est celui
où nous avons tous les amortisseurs que vous souhaitez et où nous avons les extrêmes qui mettent en danger le système politique sur lequel nous reposons.
En République tchèque, il y a 4% de chômage et nous avons un populiste qui a été élu. Aux États-Unis, il y avait 4% de chômage et c'est Donald Trump qui l'a emporté. En Angleterre, il y avait peu de chômage et il y a eu les réformes libérales et il y a eu le Brexit.
Nos 8% de chômeurs, il faut renoncer à qualifier les Français, il faut renoncer à s'interroger sur le fonctionnement du marché du travail.
Mais est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a une crise beaucoup plus profonde dans la démocratie libérale que simplement l'idée que nous devrions nous adapter à un monde qui lui-même, je suis désolé, lui-même court à la catastrophe. C'est-à-dire que partout où on s'est adapté au monde, on n'a absolument pas endigué l'expression d'un vote nationaliste, populiste ou ce que vous voulez.
Laurent Bigorne puis Natacha Polony.
J'ai beaucoup de temps de parole, donc je voudrais en donner à Natacha si elle souhaite.
Non, mais répondez, puisque c'est une attaque frontale pour le coup.
Je suis historien de formation. Il n'y a jamais une seule cause.
Bien sûr.
Il n'y a jamais une seule cause. Et on sait très bien qu'une des choses qui travaille profondément les sociétés européennes, c'est aussi la question migratoire articulée à son penchant identitaire ou à ses conséquences identitaires, avec derrière une intégration fondamentale et qui travaille les démographies européennes sur la place, par exemple, de l'islam. Pas seulement, mais notamment. Donc, on est aujourd'hui face à un modèle économique qui est compliqué parce que nous ne cessons de perdre des parts de marché en Europe et dans le monde entier, face à un modèle social qui a montré ses limites parce qu'il n'intègre plus, il n'intègre pas suffisamment, à commencer par l'école. Je vous rappelle que ce président ultralibéral a dédoublé les classes de CP et de CE1 en
Allemagne. Ça n'a rien à voir.
Mais bien sûr que si, c'est une mesure de dépense publique, c'est ce qui coûte le plus cher en éducation de dédoubler des sacs de classe. Et que par ailleurs, on a un autre front qui est ouvert, et je renvoie cette fois-ci pas à l'interview qui s'est passée dans l'Orne, mais au discours de début de semaine, on a un président qui a aussi conscience que son rôle est de traiter la question effectivement, j'allais dire plus identitaire, et de renvoyer au questionnement des Français sur le sens profond qui est celui de notre nation aujourd'hui.
Alors justement, c'est très intéressant que vous fassiez allusion au discours devant la conférence des évêques de France, tout simplement parce que elle nous rappelle une chose, c'est que là aussi, Emmanuel Macron a une vision qui est une vision libérale de la société dans laquelle, pour lui, eh bien, les individus doivent pouvoir exprimer leur religion, leur foi, et d'ailleurs il le répète sans cesse, l'État est laïque mais la société ne l'est pas, et finalement il a donné l'impression pendant ce discours de considérer, parce que c'est ce qu'il a dit en fait, que c'était aux religions de donner ce sens humaniste au monde et absolument pas à l'État républicain qui pourtant joue ce rôle, parce que nous ne sommes pas tout à fait une démocratie libérale, nous sommes une république dans laquelle la République est porteuse de cette capacité à offrir une cohérence idéologique et à apporter un idéal commun. Or, c'est cela qu'il explique, c'est que pas du tout. On est dans l'articulation entre les différents croyants, on va faire en sorte que tout se passe bien entre eux, mais finalement, c'est la religion qui porte ce discours-là.
Laurent
c'est
Bigorne.
Ça qu'il a expliqué.
Pour moi, non. Il a rappelé ce qu'était la laïcité à la française. La laïcité, mais si, la laïcité repose sur des principes de neutralité, de liberté de conscience. Et le rôle de l'État, c'est d'abord et avant tout d'assurer la liberté de conscience, de neutralité. Mais bien sûr que si. Alors, pour le coup, bien sûr que si. Et par ailleurs, bien sûr, c'est ce que je viens de dire. Et il n'a pas nié la place du religieux dans la vie des sociétés, parce que je crois que le faire, ce serait vivre dans un espace totalitaire.
Mais bien sûr, il ne s'agit pas d'être en Albanie, Denver.
Le
fait religieux.
Je crois qu'on en est loin, heureusement.
On n'est pas dans une religion qui serait l'athéisme imposé à la société. Hein. Par contre, c'est tout à fait cohérent pour moi, et c'est pour ça que si j'ai une déception dans votre discours, c'est que vous rejetiez le qualificatif de libéral, parce que fondamentalement, c'est une vision libérale. C'est une vision qui a façonné la démocratie en Angleterre et aux États-Unis, qui est de dire, pour les questions de sens, quand j'en viens aux questions
juste
de sens et
Raphaël,
d'humanité,
Raphaël,
dans ce discours, il y a une adresse...
Pour que les choses soient claires, pour comprendre le macronisme, pour vous, il faut regarder du côté de ce qui s'est passé en Grande-Bretagne, aux États-Unis, sous Ronald Reagan et Margaret Thatcher.
Non, je ne parle pas spécifiquement de Margaret Thatcher ou de Ronald Reagan, je parle d'une vision de l'État, d'une vision de la République qui est profondément libérale, dans ce sens où, notamment dans son discours aux Bernardins, il s'adresse à des communautés déjà constituées, les catholiques ou les autres. Moi, je ne pense pas qu'il passe une échelle dans les foi, il est tout sauf xénophobe, notre président, et il n'est pas phobe du tout, donc il s'adresse à toutes les communautés pour qu'elles donnent du sens et qu'elles retissent le lien social. Mais le propre, je suis désolé, le propre de la République en France, c'est justement d'avoir attribué à la laïcité quelque chose de plus que simplement une forme de neutralité, qui est de dire ce sens qui a été donné par les églises peut être donné par la politique. Et ça, c'est une vision qui n'est pas libérale. Or, Emmanuel Macron, que ce soit sur l'économie ou sur les questions, puisque vous avez évoqué des fois et des religions, s'inscrit dans une tradition beaucoup plus anglo-saxonne, y compris
bien
philosophiquement que
la réponse. Et j'ajoute qu'il nous entraîne vers cela sans débat démocratique, parce qu'une des dimensions du problème, et c'est ça que vous n'avez pas l'air de voir, c'est la question démocratique au cœur de tout cela.
Sur mon dos.
Oui, pour une fois, vous avez réussi à les réconcilier. Merci Laurent Bigorre.
Bonsoir, je dis à nos auditeurs, parce que je vous écoute. Écoutez, moi je me considère libéral, absolument pas ultra-libéral. Je rentre, je vous disais tout à l'heure, des États-Unis, j'ai vu des libertariens, les gens du Cato Institute. On est à des années-lumière du débat politique français et ils nous prennent tous pour des gauchistes joyeux.
Même vous.
Moi, je suis un archi-gauchiste.
Je me dis de gauche et je ne me sens pas proche des Khmers rouges. Donc,
mais je n'ai pas trouvé un seul moment que le discours de lundi était habité d'une vision libérale de la société. Il a dit aux catholiques ou aux chrétiens, engagez-vous.
Mais justement, il leur demande de s'engager en tant que chrétien.
De la même façon qu'il peut le dire devant les juifs et devant les francs-maçons.
Oui, ils n'ont jamais attendu.
Où serait le problème de dire à une catégorie de Français et de dire à toutes les catégories de Français de s'engager
des juifs, des communautés, des catholiques.
On ne va pas non plus nier la réalité. Il y a des gens qui se revendiquent comme catholiques, comme juifs, comme
musulmans. Ils ne sont pas que ça et ce n'est pas le rôle du président de la République de ne les considérer que comme ça. Et de leur demander surtout de s'engager. Mais en tant que catholique, parce que la laïcité à la française, c'est justement la constitution d'un espace public neutre, symbolique, dans lequel nous venons débattre politique au nom de ce qui nous rassemble.
Remis en cause par ce discours.
J'aimerais qu'on revienne à la définition du macronisme un an après l'accession du président de la République à l'Élysée. On l'a présenté, le macronisme, comme un pragmatisme.
Oui, mais
ça ne suffit pas de dire ça.
Je crois objectivement, on est en train de chercher une espèce d'exosquelette. Le macronisme.
Qu'est-ce que c'est que ça ?
Un exosquelette, vous savez, c'est ce qu'on met pour pouvoir marcher quand on a des...
Oui, comme dans le film Alien, par exemple.
Il y a l'exosquelette libéral.
Il y a un autre mot pour exosquelette, c'est vision du monde.
Comment ?
C'est vision du monde, l'autre mot pour exosquelette. Or, la démocratie, c'est quand même d'exposer une vision du monde qu'elle entre en contradiction avec d'autres visions du monde et à la fin, on fait un choix.
La démocratie, pour moi, elle est un absolu, mais ensuite, elle n'est pas un rogatif. Mais il y a un exosquelette qui serait libéral ici. Il y aurait un libéralisme économique ou social échevré ou un libéralisme politique qui nous conduira au communautarisme.
Le modèle
américain ou le modèle britannique. Je pense qu'on est dans une toute autre tentative. Il y a premièrement, je me répète, et puis je vous invite à regarder le travail qui a été fait par l'Institut sur notre site web.
C'est en ligne et c'est gratuit.
Il y a d'abord et avant tout une conviction européenne qui sous-tend tout. Pour moi, ce qui sous-tend le projet alors, macroniste...
Ne vous répétez pas, Laurent Bigorgne, le président de la République est donc sur le front médiatique pour faire un travail de pédagogie. C'est ça le problème? Comment se fait-il qu'il... on voit aujourd'hui, vous le disiez vous-même, des foyers de contestation prendre un peu à droite, à gauche, sans qu'on sache exactement...
Je sais
exactement.
Pas si des foyers de contestation ou d'agitation, d'ailleurs, pour être plus clair et plus juste, et puis essayer de réinstiller un peu de différence entre Raphaël et Natacha. Je ne sais pas si on peut se dire ce qui se passe sur 5 ou 6 campus universitaires. Est-ce que c'est de la contestation ou est-ce que c'est de l'agit-prop? Est-ce que c'est de l'agitation militante classique? J'ai ma petite idée en disant, et je pense que vous le sentez.
Oui.
C'est normal qu'il y ait des tensions. Quand on vient dire aux retraités, on va vous faire payer davantage de CSG demain parce qu'on a un problème, c'est qu'on consacre trop d'argent aujourd'hui aux retraites plutôt qu'à la jeunesse dans ce pays. Si je regarde les moyennes européennes, pardon d'être un peu techno. Quand on vient dire à la SNCF, on peut plus fonctionner comme ça, les amis. Ouais. Il faut évoluer, il faut changer parce que on n'a plus les moyens de creuser le déficit de 4 milliards par an. Mmh. Donc, il faut qu'à un moment ou un autre, on remette des principes de gestion sans quoi l'entreprise mourra. Et le pays avec. Bah, évidemment qu'on crée des tensions. Ce qui me paraît, moi, assez remarquable, c'est que
et pourquoi
la SNCF bouge, mais pas la RATP.
Mais pourquoi on demande pas
par exemple, on voit que l'enseignement supérieur bouge, mais pas l'enseignement secondaire. Les choses sont tenues, donc vous voyez bien que c'est pas un front général qui s'inscrit. Et donc, il y a une dialectique, il y a une dialectique politique, c'est normal
c'est
qu'il y ait des contestations.
On vous l'accordera avec plaisir.
Stratège, peut-être,
c'est
non
un, ouais, mais
le
c'est président de la République, c'est un grand stratège.
C'est plutôt
oui
une qualité pour bien un président d'être stratège.
Mais oui, et puis d'ailleurs, c'est comme ça qu'il l'est devenu.
Vous l'avez qualifié d'une bougie, alors c'est pas un phare dans la nuit, mais on n'était pas loin quand même d'une très très belle déclaration d'amour.
On reste dans la nuit.
C'est vrai. L'émission se termine, Raphaël.
Non, mais... Vous voyez, vous dites, il demande des efforts et c'est pour ça qu'il est contesté. Non, mais ce qui est contesté de manière plus profonde, c'est que les efforts, ils ne présentent pas un projet qui répartisse de manière égale, équitable, les efforts. Et c'est ça
pourquoi
qui pose le problème. Mais parce que quand dans le même temps, vous supprimez l'ISF, alors je suis désolé d'y revenir.
L'émission touche à son terme,
oui,
Raphaël.
Et que vous demandez des efforts aux retraités à 1200 euros, je suis désolé, c'est un phénomène naturel de penser qu'il y a là une forme d'injustice et que
les retraités à l'ISF sont les pires et sont les damnés de la terre.
Je faisais un peu
d'humour et d'ironie. Mais moi, mon sujet, c'est pas tellement l'ISF versus les retraités, c'est les jeunes contre les retraités. Notre problème, c'est pas ceux qui payent l'ISF. C'est
le sort des jeunes.
Notre problème, c'est
aussi pour quoi faire. C'est-à-dire vers quelle société nous voulons aller, quel projet de vie. Or ça, à aucun moment, il ne l'explique. Tout simplement.
Non.
Je termine. Tout simplement parce que c'est dans cette articulation compliquée qu'est la politique entre le collectif et l'individuel, il est en permanence uniquement du côté de l'individuel, de la responsabilité individuelle. Il faut se bouger, il faut s'adapter. Et ceux qui ne peuvent pas, on se demande bien ce qu'ils deviendront.
Le dernier mot, Laurent Bigorgne.
Je ne suis évidemment pas d'accord et j'espère être invité pour pouvoir le soutenir, mais je crois qu'au contraire...
Et je crois que les auditeurs l'ont entendu.
On a l'idée d'un collectif et européen et national, et je trouve l'idée vraiment intéressante et assez tranchante, pour être honnête, par rapport aux deux derniers quinquennats.
C'est loin d'être la fin du débat, mais c'est la fin de l'émission. Le grand face-à-face se termine. Merci Laurent Bigorgne. L'analyse fouillée détaillée de cette première année du mandat d'Emmanuel Macron est en ligne sur le site de l'Institut Montaigne. Natacha, Raphaël, à dimanche prochain.
À dimanche prochain.
Merci à Ophélie Vivier à la réalisation. C'était Marion Lelay à la technique. Romain Caillé à suivre. Zoé Varier et sa journée particulière.